Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Être agriculteur, agricultrice, une histoire de partage, des histoires de rencontres. Reportage. Deuxième épisode. Tout a commencé, souvenez-vous, à la ferme de Ruinel, au petit marché de Chapia, au cours de l'été 2021. Là, nous avions rencontré un certain nombre d'agriculteurs, agricultrices, de paysans, paysannes, devrais-je dire, et notamment Daniel Moreau. Avec son compagnon de vie, Jean-Loup, tous les deux ont été durant plus de 30 ans éleveurs de brebis laitières à Vacherenquin, un village situé dans le parc du Vercors, à quelques kilomètres de Die. Aujourd'hui à la retraite, Daniel continue de conseiller les autres éleveurs pour ce qui est des traitements homéopathiques prodigués aux troupeaux. La connaissant engagée depuis longtemps, le regard qu'elle porte sur le monde agricole aujourd'hui nous semblait donc précieux d'interroger. Comment tu les vois, les jeunes agriculteurs avec, que tu vas retrouver de temps en temps, que tu vas écouter ?
Eh bien, moi, ceux que je retrouve, c'est des passionnés.
Daniel Moreau.
Qui se sont investis même dans un militantisme aussi. Pas tous, mais beaucoup, qui ont compris ce que c'était que d'être paysan, et que c'est vraiment un choix. Après, il y en a qui se sont associés à plusieurs pour favoriser leur vie de famille, chose que nous, on a peut-être mis un peu de côté, parce qu'à deux sur une ferme, c'est beaucoup. Quand il y a les foins, quand il y a le fromage, quand il y a les mises bas, quand... Voilà, c'est énorme, mais quand même, ces jeunes, ils ont une autre façon de faire, et je trouve ça très bien, parce qu'ils favorisent aussi leur vie de famille, c'est important. C'est pour ça qu'ils se mettent à plusieurs, mais ils ont la même idéologie.
Voilà, c'est ça, c'est aussi le travail, votre travail est accompagné de ça, de militantisme et d'idées fortes. Et du coup, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui vient soutenir votre travail.
Ouais, oui, c'est peut-être ça qui était le démarrage. En fait, ouais, je crois que ça a bien collé... Et j'aime beaucoup ce que disait Jean-Loup, c'est parce que Jean-Loup est décédé. Il disait que son travail, ne serait-ce qu'au niveau des pâturages, des cultures des terres, et avec les brebis, c'était... C'était un travail de militantisme par rapport justement au monde paysan. C'était aussi de la recherche, quoi, sur notamment au niveau des pâturages, quoi. Il avait une gestion des pâturages auxquels il réfléchissait vraiment pour que, ben voilà, pour après le transmettre ailleurs, quoi. Dire, ben voilà, si on veut évoluer, il faut essayer de fonctionner de telle et telle façon. Et c'était, en fait, un chercheur.
Il y avait donc l'envie dans votre façon de travailler, ou en tout cas de faire de l'agriculture, une envie de transformer un peu la société ou les fonctionnements sociaux.
Ouais, je crois que c'était peut-être à la base, c'était à la base de ce qu'on voulait aussi, oui.
changer la société ou peut-être tenter d'orienter vers ce qui apparaît du point de vue de celles et ceux qui pratiquent une petite paysannerie, le plus adapté aux besoins de tous et de toutes, de l'humanité même. C'est bien avec ces pensées que nous sommes retournés au CFPPA de Die afin de rencontrer Abdoulawab Abdou, dit Abdou. Qu'est-ce qui te soutient en ce moment dans ton envie d'apprendre le métier de maraîcher?
Le soutien premier, c'est ma famille. Hein. Ouais, c'est la famille pleinement. Et aussi dans cette démarche, les gens que je rencontre aussi, les amis avec lesquels j'en parle aussi, et le monde actuel aussi, qu'on voit à quel niveau ça tourne, comment ça se passe. On se dit aussi, mine de rien, c'est un soutien d'une autre façon qu'on peut mettre en lumière quand même, parce que souvent, soutien, on voit que les personnes, maintenant, il y a ce côté aussi indirect de soutien qui peut venir de cela, où tu te dis, là aussi, j'ai un soutien qui me permet de dire, je fais un truc qui est utile et qui va servir l'humanité. Et aussi à ce côté aussi de se demander, au-delà des soutiens, tout ça, qu'est-ce qu'on veut transmettre aussi à la génération, à nos enfants qui nous voient, qui nous prennent aussi comme modèle et qui se demandent, ben voilà, demain, qu'est-ce qui va aussi devenir. Après, chacun suivra son petit bout de chemin, mais quand même, quand on leur donnera des bases aussi, ne serait-ce qu'une bonne alimentation, pour moi c'est une base solide, donc ça permettra, voilà, à tout un chacun de s'épanouir et puis d'avancer sereinement et intégralement dans son soi intérieur et son bien-être, quoi.
Originaire du Niger, Abdou est arrivé en France en 2005 avec un BTS compta-gestion, des études qu'il poursuit jusqu'au Master 2 en économie et gestion, spécialisé ingénierie et évaluation des projets. Après quelques allers-retours entre France et Niger, Abdou rencontre celle qui est aujourd'hui sa compagne et la mère de ses enfants. En famille, c'est à Cré qu'il s'installe, car de fil en aiguille et d'expérience en rencontre, de réseau en réseau, Abdou est embauché par l'association Terre de Liens durant 3 ans, avant d'entrer au CFPPA en novembre 2021 pour préparer un BPREA en maraîchage bio. Abdou.
Et ma culture s'inscrit aussi beaucoup dans la solidarité, la simplicité et l'esprit de faire avec ce qu'on a et de s'estimer heureux d'être déjà là. Donc je pense que si on fait le parallèle ici aussi, on entend voir voilà, plusieurs modèles et plusieurs acteurs qui interviennent dans ces différents champs aussi. Et puis aussi l'autre élément, Il y a de l'inspiration qui se fera à travers ces deux lieux qui sont géographiquement opposés, parce que moi j'appartiens à un pays qui est en 3/4 désertique, donc il n'y a qu'une petite bande qui est, voilà, disons sahélo-sahérien, qui amène un peu de verdure, tout ça, alors qu'ici on est dans un pays qui est complètement, je dirais, vert, avec voilà, plein de biodiversité et d'éléments qui font en compte que l'agriculture ici peut être facilement appliquée, voilà, à une échelle humaine et simpliste. Chez moi, pareil, mais deux fois c'est plus complexe, ne serait-ce qu'en termes de productivité et de sol. Donc voilà, c'est des paramètres aussi qui peuvent varier d'un côté comme de l'autre. Mais dans sa globalité, c'est surtout de s'inscrire dans un monde de partage, de solidarité, de bien-être et de joie pour pouvoir, voilà, avancer en toute tranquillité, en toute simplicité dans son petit bout de parcours qu'on a à faire tout un chacun.
« On observe aussi que les paysans, paysannes sont souvent en lutte, en tous les cas en France, peut-être même au Niger, mais pour toujours, toujours encore défendre leurs droits. Est-ce que, donc, quel regard tu as là-dessus?
Et cette défense des droits, à mon sens, est légitime dans la mesure où tant qu'on s'inscrit à produire, à vendre, du coup à nourrir, je pense qu'il y a aussi ce côté militant qui nous anime et qui fait que, au-delà de produire juste un bien, on s'inscrit dans un processus qui nous amène à se demander aussi ce bien que je produis, à quoi il sert et quelle est sa finalité. Et en chacun de nous, et je pense aussi quand on produit, c'est pour se dire que c'est une production qui fait du bien. Quand on le mange, on se sent en phase aussi avec voilà, ce qu'on mange, on sait où on l'a acheté. Et ne serait-ce que de trouver un produit au niveau local, en ayant moins de distance ou de parcours à faire, ça amène aussi à créer du lien. Donc ça revient un peu à ce côté solidarité où j'en parlais aussi. Donc c'est pas juste vendre un produit, mais c'est surtout d'être en lien avec qui on achète, on sait chez qui on vend ou on consomme. Donc pour moi, c'est aussi une autre façon et une forme de militantisme qui peut aussi être ancrée et développée. Et aussi, on voit qu'il y a pas mal de réseaux qui sont là pour porter des voix, et je pense que c'est à soutenir et à mettre en lumière pour permettre à ceux que l'expression la plus large. Donc je pense que ouais, cette dynamique en termes syndical doit être portée de vive voix, et puis au-delà de la voix doit être inscrite à un niveau local, national, régional, et puis voire même au-delà.
Faire l'usine, le profit avant le vivant. Nos bêtes ne sont pas des machines, rendons-leur la clé des champs. Ils nous enchaînent à coups de primes, rendent-nous des exploitants.
Vous écoutez, il est une vallée sur RDO et Radio Saint-Ferréol. Quelques semaines plus tard, le ministre de l'Agriculture remettait des prix, des récompenses, au groupe de chercheurs participant au hackathon organisé par le ministère à la Chambre d'Agriculture de Bourg-les-Valences. Sachez, auditeurs, auditrices, qu'un hackathon est une sorte de marathon, un événement durant lequel des groupes de développeurs se réunissent afin de travailler sur des projets de programmation informatique de manière collaborative. Collaborative, mais certainement pas en lien avec celles et ceux qui font l'agriculture et qui du coup venaient faire entendre leur expertise, et cela malgré un cordon serré de gendarmes casqués.
Hop là, ça marche ! Ça marche !
Vous êtes venu défendre des pratiques agricoles.
Oui, on est venu défendre l'agriculture paysanne, en fait.
Vincent Paltera, paysan dans le Diwa et porte-parole de la Confédération.
Là, on a un plan agriculture 2030 qui nous a été pondu très récemment par le gouvernement, avec comme mot d'ordre robotique, génétique, numérique. Et en fait, c'est les mêmes recettes qui nous sont servies depuis maintenant plus de 50 ans. À savoir que on a des chercheurs qui vont se placer dans le rôle de prescripteurs par rapport à l'agriculteur qui, au milieu, va prendre des crédits pour investir dans toujours plus de matériel, toujours plus technologique, toujours plus soi-disant pour lui faciliter la vie. Et à côté de ça, on a une industrie de l'agrobusiness, hein, comme on dit. Donc l'agrochimie, l'agroalimentaire qui lui va ramasser les bénéfices. Et l'agriculture française, telle qu'elle est menée depuis une cinquantaine d'années maintenant, elle sert juste de prétexte à l'investissement d'argent public dans des industries qui sont polluantes, dans un système qui détruit les actifs agricoles en fait. Rien qu'en 1990, il y avait 1 million d'agriculteurs de plus en France. C'est pour ça que nous, on veut revenir à un système d'agriculture paysanne, à savoir une agriculture respectueuse de l'environnement, une agriculture qui est autonome par rapport à l'amont, à savoir tout ce dont elle aura besoin pour pratiquer son métier, et à l'aval, à savoir qu'elle va essayer de vendre au plus près les produits de sa ferme.
Voilà, on vient dénoncer avec tous ces jeux la fuite en avant technologique et la fausse croyance que toutes ces solutions numériques vont régler les problèmes, ça sera le futur de l'agriculture.
Les gouvernants actuels prônant comme idée du progrès pour ce qui est des outils agricoles, le développement des technologies numériques, la Confédération paysanne de la Drôme proposait en réponse d'organiser un cacathon, un concours de la meilleure fumure.
Et une des pratiques que vous défendez, c'est une des pratiques les plus anciennes dans l'agricole, c'est-à-dire c'est d'enrichir la terre de fumier.
Effectivement, au-delà de la boutade par rapport au thème de l'événement de la Chambre d'agriculture aujourd'hui, donc le hackathon par rapport au hacking, programmeur, etc., nous on oppose le cacathon, qui a pour thème donc la fumure, le fumier, la fumure organique, le compost, et qui depuis maintenant plus de 6000 ans en fait entretient la fertilité des sols via des systèmes de symbiose entre les paysans, leurs bêtes, le sol, et des systèmes qui sont très très économes en fait en pétrole, très très économes en carbone, parce que à la place d'utiliser des engrais azotés qui sont à base de pétrole, donc on relocalise la production de fumier qu'on étend au plus près dans les champs, de manière à avoir des sols vivants, de manière à avoir des sols productifs, en ayant le moins besoin possible d'avoir recours aux huiles minérales. Voilà, un peu plus d'huile de coude, un peu plus de réflexion pour l'agriculteur et moins de dépendance face à une technologie qui n'est pas maîtrisée.
Un peu plus encore de réseau, d'échanges et de liens entre agriculteurs et agricultrices.
Oui, et pas seulement, d'ailleurs aussi de liens avec toute la société, parce que l'agriculture, c'est la production d'alimentation et tout le monde a besoin de manger. Donc si tout le monde a besoin de manger, tout le monde a s'emparé du sujet et tout le monde doit être acteur avec nous pour repenser une manière de se nourrir, une manière de produire notre alimentation qui ne soit plus responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre, qui ne soit plus responsable de la destruction des paysages, qui ne soit plus responsable de la désertification des campagnes, et j'en passe et des meilleurs.
Les problèmes, ça sera le futur de l'agriculture. Malheureusement, cette fuite en avant, cette cognée contre mur, c'est tout simplement la physique. C'est le taux de carbone.
Les paysans, plus question de.
ce jour-là, nous rencontrons Marie-Pascale Abel-Coindoz. Avec son mari, ils élèvent à Aubenasson un troupeau qui compte aujourd'hui une trentaine de chèvres. Dans une ferme isolée, tous les deux ont durant plus de 20 ans inventé une manière décroissante de faire de l'élevage et de fabriquer des picodons, et cela en tentant d'être au plus près à la fois des besoins des animaux, mais aussi des leurs, en s'orientant vers plus encore de sobriété.
Alors depuis en 20 ans, comment a évolué votre manière de travailler, peut-être même votre manière de vivre le travail ? Agricole, d'éleveur, éleveuse.
Ouais. Alors, le travail a évolué dans le sens où, quand on s'est installé, moi j'ai fait la demande de DGA, dotation jeune agriculteur.
Marie-Pascale Abel-Coindoz.
Et en fait, vite, on se rend compte qu'on nous enferme dans une espèce de carcan où on nous oblige à un revenu disponible et du coup à un investissement type et à un chiffre d'affaires aussi type quelque part. Et on nous pousse à la production. Donc les premières années, vite, on est monté à 57 chèvres au bout de 3 ans en transformation. Et aujourd'hui, finalement, où là, on est en rythme de croisière plutôt, aujourd'hui, j'ai entre 35 et 40 chèvres en production et on en vit très bien. Donc on a plutôt, nous, essayé de revoir la manière, pas forcément de travailler, mais en tout cas d'adapter notre cheptel à notre capacité de travail et à notre capacité, en tout cas du site, de produire la ressource nécessaire pour être autonome, en tout cas en fourrage entre autres et en pâturage. Parce que quand on était à plus de 50 chèvres, on est obligé d'acheter du foin à l'extérieur par exemple, alors qu'aujourd'hui avec 35-40 chèvres, on est largement capable d'autosuffire aux besoins de nos animaux et du coup d'être un peu plus autonome et un peu plus indépendant aussi, quoi. On en vit bien, sachant qu'il ne faut quand même pas se voiler la face. Les aides PAC sont quand même une part importante de notre chiffre d'affaires, quelque part, dans notre système de production. Aujourd'hui, les subventions sont quand même pour la grande majorité rattachées à une surface. Il faut savoir que sur l'exploitation agricole, plus t'as grand, plus t'es aidé. Donc du coup, plus t'as d'hectares, plus t'as d'aides de la PAC. Nous, aujourd'hui, on déclare 46 hectares en zone de pâturage et en zone de montagne, sachant que, comme les terrains sont pris en photo par satellite et donc pris à plat, et nous, on a beaucoup de pentes, donc même en déclarant 44 hectares, on perd en fait 10 hectares par rapport aux photos satellites. Donc, on est aidé sur 34 hectares de la PAC. Ce qui fait, je crois, si on cumule tout, on est à peu près à 20 000 euros d'aide PAC par an. Tout aide confondu, PAC plus aide loup, plus ce qu'on appelle, ce qui rentre dans la PAC, c'est l'ICHN. Nous, c'est vraiment notre grosse part, je crois que c'est 15 000 euros. Et ça s'appelle l'indemnité compensatrice de l'handicap naturel, puisqu'on est en zone de montagne. Et voilà, c'est quand même une grosse part dans notre chiffre d'affaires.
Le travail de la terre serait-il lié de manière intrinsèque au militantisme ? Porterait-il en lui la nécessité de défendre les droits humains qui sont ceux de se nourrir et de vivre en paix ?
Bah, j'avouerai qu'aujourd'hui, on est plutôt à vouloir ralentir un peu le rythme, à réfléchir soit à une association, soit à du salariat. Mais on a déjà testé le salariat et on se rend compte que sur une petite structure comme la nôtre, c'est compliqué si on n'augmente pas la production. Et donc plutôt à réfléchir à un petit peu moins se centrer sur la production fromagère et essayer donc peut-être de diminuer cette production fromagère et de devenir plus autonome sur la ferme, en tout cas pour alimenter la famille par exemple. On se rend compte qu'aujourd'hui, on passe tellement de temps à la production, à la vente, qu'on a très peu de temps pour faire par exemple un gros potager pour être un peu plus autonome, avoir une basse-cour qui s'appelle une basse-cour. Donc l'objectif là, dans les 20 ans à venir, c'est de rendre la ferme et la vie sur la ferme plus en autarcie. C'est compliqué justement de trouver une place en tant que, enfin pas en tant qu'humain, mais en tout cas de ne pas toujours avoir la tête, comme on dit, dans le guidon et du coup d'être dans le travail et de s'oublier et dans le couple et dans la vie, parce que finalement c'est pas si simple aussi de travailler toute l'année ensemble. Mais je sais qu'on a réussi, parce qu'on a réussi aussi chacun à avoir des responsabilités à l'extérieur de la ferme et du coup d'être aussi en lien avec de l'humain. Et ça, je pense que c'est important.
Il faut être en lien avec le vivant sur nos fermes, mais il faut être aussi en lien avec du vivant à l'extérieur. Et moi, j'y tenais beaucoup à être en lien avec du vivant à l'extérieur, sur des luttes, sur des engagements, que ce soit dans le social, que ce soit aussi dans l'écologie. Enfin, voilà. Et je pense qu'on a trouvé un équilibre avec tout ça.
Et c'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui à cette manifestation portée par la Confédération Paysanne à la Chambre de l'Agriculture à Bourg-les-Valence. Et donc du coup, quel est votre sentiment là sur cette fin de journée ?
Sur cette fin de journée, moi j'ai une espèce d'écœurement, enfin, je n'arrive pas à comprendre où les élus, ou en tout cas où les décideurs veulent nous mener. Je pense que les solutions en agriculture, on les a. Il faut arrêter de nous faire croire que la science va tout nous apporter, en tout cas la robotique, la génétique et le numérique. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça du tout dans nos fermes. Ce qu'il faut reprendre en main, je pense, en tant que paysan, c'est notre savoir-faire et aussi repenser notre environnement, non pas comme quelque chose qui nous est extérieur, mais quelque chose qui est un ensemble. On est vivant, on fait partie du vivant, et c'est en le respectant en fait qu'on arrive à des grandes choses, et c'est pas en inventant justement en plus des technologies qui sont très très gourmandes, que ce soit en énergie, en eau, en matériaux rares, en exploitation d'enfants dans d'autres pays, etc., qu'on va permettre au climat, en tout cas de pas se dégrader trop vite. Au contraire, moi je pense qu'on est vraiment là dans des contre-solutions, et pour moi c'est même, je comprends même pas qu'on puisse aujourd'hui nous faire ce genre de proposition. Je trouve ça honteux presque, je trouve ça décalé, je trouve ça ça me met en rage quoi.
Paysan, touché du sang de la terre, paysan, paysan, la terre de nos enfants. Paysan, paysan, plus question de nous taire, paysan, paysan, solitaire et vivant.
Il est une vallée sur RDIWA, RSF. RSF. Toi, tu es agricultrice.
Alors, je ne suis pas vraiment agricultrice, mais je travaille sur une ferme qui fait de l'élevage, des cultures, et qui essaye de valoriser les cycles du vivant. Et on n'a pas besoin d'outils archi-développés pour ça. Donc je me sens concernée par la question.
Et vous êtes nombreux à travailler sur cette ferme ?
Oui, on est entre 4 et 6 personnes, selon les saisons.
Lena Schmidt-Haun.
Ce qui me porte, c'est le fait d'être en lien avec le vivant, avec des choses qui évoluent selon les saisons, qui poussent grâce à l'air, au soleil et à l'eau, et qui nous nourrissent ensuite, nous humains et animaux. Et c'est de voir la complémentarité entre les cultures, l'élevage, de voir que c'est pas si compliqué en fait de faire pousser des choses avec des méthodes durables, et que de toujours chercher l'efficience et le plus efficace via des outils qui sont industriels, ça me parle pas quoi. On n'a pas besoin de stocker des données dans des centres de données à l'autre bout du monde 6 fois pour être sûr qu'elles ne se perdent pas s'il y a une petite panne de courant pour arriver à se nourrir en tant qu'humain quoi. Quoi de plus ? Bon, ce qui me porte aussi dans ce travail agricole, c'est d'être dehors, en lien avec la nature, de sentir que ça a aussi un lien avec les humains au sens large, parce qu'on produit de la nourriture saine et qui a du sens pour le territoire où on la fait pousser. C'est de se replacer un peu au milieu de tous les autres éléments d'une société et d'un environnement au sens large, quoi.
Et là, d'être ici, à cette manifestation, qu'est-ce que ça provoque chez toi ?
C'est sûr que ça nous met un peu face à cette course en avant effrénée du numérique et des technologies dans tous les secteurs, pas que agricole d'ailleurs. Et ça paraît un peu impossible de l'arrêter, cette course, mais juste pour dire que nous, ça nous convient pas, et de montrer qu'on trouve ça... En tout cas, c'est pas juste pour nous, agriculteurs, qui défendons un certain type d'agriculture. Je trouve ça important de venir et de le dire, et de montrer qu'il y a des choses toutes simples qui sont possibles aussi pour faire une agriculture respectueuse de l'environnement et qui fait des campagnes vivantes et qui fait des agriculteurs qui sont heureux de faire ce qu'ils font. Donc voilà, on vient montrer ça en apportant nos petites graines et notre fumier pour essayer de faire un contre-pouvoir. Voilà, même si le pouvoir des technologies et des grandes entreprises qui sont derrière est très grand.
Voilà, vous m'entendez ?
Oui.
Ah, magnifique. Alors, comme je disais, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue. Je dois vous dire que j'étais un peu inquiet quand ils m'ont dit de venir parler avec vous, parce que nous là-dedans, en fait, on s'imagine que les paysans, et c'est des gens, quoi, des paysans, quoi, comme ça, on a peur, on a tous peur un peu, des paysans, on s'imagine que c'est un peu des paysans.
Alors, les anti-progrès, les anti-tout.
Que reste-t-il de ce que nous interrogeons, particulièrement depuis le début de cette pandémie Covid-19 et que nous identifions comme essentiel ? La liberté, bien sûr, et notamment celle de se nourrir et de vivre dans un environnement sain favorisant les liens et le bonheur d'être. Les agriculteurs et agricultrices ont à cet endroit un rôle important à jouer et certainement une responsabilité dans ces domaines. Encore faut-il qu'ils et elles aient les moyens, la possibilité de mener à bien leur travail, et cela dans de bonnes conditions.
Apparemment, il y en a eu un, mais c'était peut-être pas à Valence.
Plus question de nous taire, paysans, paysans, solidaires et vivants.
C'était Être agriculteur, agricultrice, une histoire de partage, des histoires de rencontres. Avec la participation de Abdoulawab Abdou, Daniel Meureau, Léna Schmitt-Haoum, Marie-Pascale Abel-Coindoz et Vincent Paltera.
Fonde-nous des exploitants, ne sont pas des machines.
Rendons-leur
la clé des champs.
Solidez-nous
enchaîne à coups de prime. Fonde-nous des exploitants. Plus question d'être leur victime.
Une réalisation pour RDIWA et Radio Saint-Fé. À bientôt.
Karar
I'm